Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de Pensée, une émission consacrée à la découverte de la philosophie et des textes qui font penser. Nous sommes dans une série de textes qui parlent d'Antigone. Antigone, la pièce de Sophocle, et nous avons consacré deux émissions à planter le décor, à discuter des questions qui pouvaient émerger à partir d'Antigone. Et là, nous continuons. Et sans trop tarder, eh bien, plongeons-nous dans l'univers d'Antigone.
Il est bien des merveilles en ce monde. Il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui sait traverser la mer grise à l'heure où souffle le vent du sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. Il est l'être que tourmente la déesse Auguste entre toutes, la terre éternelle et infatigable, avec ses charrues qui vont chaque année le sillonnant sans répit, celui qui l'a fait labourer par les produits de ses cavales. Les oiseaux étourdis, il les enserre et il les prend, tout comme le gibier des champs et les poissons qui peuplent la mer dans les mailles de ses filets. L'homme a l'esprit ingénieux. Par ses engins, il s'en rend maître de l'animal sauvage qui va courant les monts, et le moment venu, il mettra sous le joug et le cheval à l'épaisse crinière et l'infatigable taureau des montagnes. Parole, pensée vite comme le vent, aspiration d'où naissent les cités. Tout cela, il se l'est enseigné à lui-même, aussi bien qu'il a su, en se faisant un gîte, se dérober aux traits du gel ou de la pluie, cruel à ceux qui n'ont point d'autre toit que le ciel. Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé contre rien de ce que peut lui offrir l'avenir. Contre la mort seule, il n'aura jamais de charme permettant de lui échapper, bien qu'il ait déjà su, contre les maladies les plus opiniâtres, imaginer plus d'un remède. Mais, ainsi maître d'un savoir dont ses ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut ensuite prendre la route du mal, tout comme du bien. Qu'il fasse donc dans ce savoir une part aux lois de sa ville et à la justice des dieux, à laquelle il a juré foi. Il montera alors très haut dans sa cité. Tandis qu'il s'exclut de cette cité, le jour où il laisse le crime la contaminer par bravade. Ah, qu'il n'ait plus de place alors à mon foyer, ni parmi mes amis, si c'est là comme il se comporte.
Merci. La lecture qui vous a été faite était donc faite par Anne Bonneau. C'est le vers 332 de la pièce de Sophocle Antigone, ou premier Stasimone, donc premier chant. Donc vous êtes avec Sylvain Contassot-Vivier, Nicolas Lemoine et moi-même, Nazim Fattès, et puis Anne Bonneau qui a lu ce texte. Voilà. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que ce texte vous inspire comme ça, à tue-tête ? Il y a beaucoup, beaucoup à dire. On pourrait y passer de nombreuses émissions, mais quels sont vos premiers sentiments à la lecture de ce premier chant du cœur d'Antigone ?
Bah déjà, moi, il me rappelle un petit peu ce que disait Descartes quand il disait que l'homme s'était rendu maître de la nature. On sent qu'on n'en est pas très, très loin, là, puisque apparemment, pour l'instant, la seule chose dont il ne se soit pas rendu maître, c'est de la mort, et pour cause.
Oui. Alors, donc, il y a une pensée de la mort, quoi.
Elle est bien là au centre.
Elle est bien là au centre.
C'est la seule chose à laquelle il n'a pas réussi pour laquelle il n'a pas réussi à trouver de remède. Sinon, il est maître de tout. Et il y a une phrase aussi qui est importante, c'est qu'il dit qu'il tourmente la terre. Et ça nous parle un peu.
Ah,
de
oui,
2500 ans après, ça nous parle quand même aussi
d'accord,
pas mal.
D'accord. Voilà. Ça, c'est intéressant. Moi, ce qui me surprend, c'est que quand même, il y a une grosse différence, c'est que là, on est dans le langage poétique.
Oui.
Alors que chez Descartes, le moyen de se rendre comme maître et possesseur de la nature, ce sont les mathématiques.
Oui, donc,
différence.
Il parle quand même des engins. Les mailles de ses filets, c'est
exact.
Parce qu'il a des engins.
Très juste.
C'est bien pour ça. On est dans le poétique, mais
comme dirait Jean-Marc Lévy Leblond, la technique a précédé les mathématiques.
Exactement.
Et les sciences.
Et d'ailleurs, vous savez, le mot grec, pour ceux qui, d'entre les auditeurs et d'entre les lecteurs, qui aurait ce passage-là sous les yeux, le mot grec qui revient plusieurs fois, pas seulement une seule fois, c'est mécané,
ouais.
Mécané, hein, qui donne la mécanique, hein, Macanaï, etc. Mécanaïs, donc on le voit apparaître plusieurs fois. Donc quand il parle d'esprit ingénieux, des engins et tout, c'est ce mot mécané qui est là. Mais effectivement, c'est plus donc une pensée de la technique qui a toujours ce côté ingénieux, etc. Que Descartes, lui, c'est la science, c'est le moyen sûr.
J'ai
quoi,
pas
c'est-à-dire.
Dit que c'était exactement la même chose.
Non, non, mais voilà.
Mais disons qu'il y a la méthode pour aller encore plus loin.
Ouais.
Et pour fatiguer encore davantage la tête.
Voilà, c'est ça, pour l'épuiser tout à fait.
Pour rendre tout à fait raison.
Exactement, voilà. Alors, d'autres choses. Alors, comment en grec, hein, si on regarde. Alors, tu as pris la traduction Anne. La traduction de Mazon. Mazon. Donc, la traduction qu'on trouve à l'édition Les Belles Lettres, traduction de Paul Mazon. Et puis, on pourrait peut-être lire le début de ce chœur dans la traduction de Jean Lauxerrois, qui est paru chez Agora Pocket. Traduction qui avait été commandée par Fabrice Midal à Jean Lauxerrois. Alors, peut-être juste le premier paragraphe.
Oui. Innombrable l'effrayant, mais rien n'est plus effrayant que l'homme. Même la mer grisonnante d'écume, lui la traverse, sous le vent violent de l'hiver, dans les creux des vagues rugissant tout autour. Et d'entre les dieux, la plus éminente, la terre, elle, l'inépuisable, l'inlassable, il la fatigue de ses charrues qui la sillonnent chaque année, lorsqu'il travaille avec ses mules.
Donc, le premier vers dit Pola ta Daina. Hein. Comment vous comprenez ce Dainon hein, qu'on entend dans le mot dinosaure? Donc le lézard terrible, si on dit merveille, on risque de d'y voir quelque chose de beau et tout, alors que Dainon, il y a le terrifiant, non ?
Disons que c'est le mot merveille au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il se rapproche de miracle, de choses fantastiques.
Oui, miracle au sens que quand un ange vous apparaît, vous êtes terrifié, quoi.
C'est ça. Mais effectivement, le mot grec est un peu ambivalent. Effectivement, Daina, au départ, c'est quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose qui a trait au sacré, quelque part. À la fois tremendous et effrayant.
Oui, tremendous, oui, j'avais pas noté ça, mais effectivement. Tremendous qu'on trouve en latin et en anglais, c'est d'ailleurs, c'est ça. Oui, comment ?
Non, je disais c'est latin.
C'est latin, oui, et puis, mais en anglais, c'est le même mot. Hein, ça, c'est intéressant. Et donc, oui, comment on peut le comprendre ? Est-ce qu'on peut dire d'autres choses sur ce Dainon ? C'est-à-dire, c'est pas l'homme merveilleux comme il est super, c'est qu'il est terrifiant dans tout ce qu'il peut faire.
Il peut être terrible en tous les cas, voilà, et peut-être il faut se méfier, peut-être que c'est repris aussi à la fin, hein, quand il dit, attention, il peut aller vers le mal comme vers le bien.
Voilà.
Alors, donc, une créature capable de grandes choses.
Cette potentialité-là.
Et c'est ce que le texte rappelle à la fin, d'ailleurs.
Mm.
Une créature capable de grandes choses peut faire des grandes choses en bien comme en mal.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un de fascinant et d'effrayant. Parce que le pouvoir qu'il acquiert peut le rendre effectivement terrible.
Voilà. Alors, dans quelle mesure peut-on dire qu'il y a là une pensée de l'éthique ? Ou de la justice, ou quelle est la vision de l'homme sur Terre qui peut ressortir d'un texte comme celui-ci ?
Mais c'est à la cité, peut-être, un petit peu, il doit respecter les lois de sa cité, c'est à la cité de canaliser tout ça, et on doit la respecter comme on doit respecter les dieux, il y a ces deux facettes-là.
Ça, c'est intéressant.
Et il parle bien du mal comme du bien, donc là, je pense qu'on est en pleine éthique, probablement, puisque l'éthique doit parler probablement du mal et du bien. Donc voilà, donc l'importance de la cité, et c'est peut-être d'autant plus important ici, qu'on se dit que c'est les balbutiements, quelque part, c'est les Grecs qui ont inventé quelque part la cité, la démocratie, tout ça. Donc peut-être qu'il se place aussi dans tout ce questionnement-là. Quel est le devoir de la cité ? Qu'est-ce qu'elle doit porter ? C'est peut-être aussi une des manières de voir aussi Antigone.
D'accord.
On le verra peut-être plus tard avec Aimon.
Oui. Oui, dans la confrontation de
Aimon et Créon.
Oui.
Et quelque part, ce qui est écrit en filigrane, c'est qu'il sait se préserver de la nature, mais il a bien du mal à se préserver de lui-même.
Oui.
Donc il a une certaine sagesse en étant capable de construire des lois bonnes, des lois capables de mener une cité de façon cohérente, de façon harmonieuse, mais il y a toujours le risque qu'il use de son pouvoir pour mal interpréter les lois humaines et divines et commettre des projets, nourrir des projets criminels.
Oui.
Et donc, quelque part, la cité est en permanence en danger du fait de cette tendance de l'homme à interpréter les lois à son avantage et à essayer de les user à son seul avantage sans lien avec l'harmonie de la cité.
Oui. Ça, C'était très présent, par exemple, dans le Gorgias, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire, chez Platon, il y a la pensée du pseudès, du faux, c'est-à-dire que l'homme le plus redoutable, justement, le plus deinon, le plus méchant, mais là, dans le sens uniquement négatif, c'est pas celui qui apparaît comme méchant, mais c'est celui qui apparaît comme bon et détourne le bien à ses fins personnelles ou des fins de pouvoir. Oui, tu voulais dire quelque chose, Sylvain ?
Oui, ça rejoint un peu cette idée qu'effectivement, si on veut vivre en société, il faut de toute façon effectivement canaliser toutes les choses qui pourraient aller à l'encontre de ce bien vivre en société.
Mais précisément, tu vois bien
par
que...
Par rapport à l'individu.
C'est ça qui est drôle chez les Grecs, à mon avis, c'est qu'ils ne parlent pas de bien vivre en société. Ils parlent des dieux. Donc, c'est pas il faut être raisonnable pour qu'on soit tous bien ensemble. C'est-à-dire... Celui qui n'est pas raisonnable, celui qui dépasse la limite, sera puni par les dieux. Et nous, ça nous paraît étrange, non ? Comment on peut recevoir cette pensée des dieux à une époque où, bon, j'ai pas envie de dire Dieu est mort, parce que ce serait détourner une pensée métaphysique de son cadre, mais en tout cas où le rapport au divin est plus distendu ou plus étrange. Comment on peut penser cet univers des Grecs. Anne, tu veux dire quelque chose ?
Oula, c'est très compliqué souvent... en oui. même temps. Moi, j'ai l'impression... Alors, déjà, avec les conversations qu'on a déjà eues avec toi, par exemple, que les Grecs, les dieux grecs étaient peut-être plus proches des hommes que le dieu des chrétiens ne l'est, dans la mesure où ils étaient très présents dans la vie de tous les jours. Et par exemple, on a vu une émission là, récemment sur l'Olympe. Et donc, Zeus, il était dans l'Olympe. On allait le voir. Et c'était son royaume, et il y avait sa figure sur l'Olympe. Donc, quelque part, ils étaient aussi présents. Et moi, c'est une relation complexe qu'on a du mal. Voilà, qu'on a du mal. Mais je pense que quelque part, ils sont très présents dans leur vie de tous les jours. Et je pense que ça n'empêche pas le fait qu'ils s'en réfèrent au Dieu, n'empêche pas que c'est beaucoup de portée sur l'homme dans sa vie de tous les jours.
Vous voulez commenter aussi ?
Oui. Après, on peut recevoir la notion de divin comme étant un certain nombre de processus que l'homme ne maîtrise pas, ne serait-ce que parce qu'il ne les comprend pas, et qu'il subit. Et donc, effectivement, si on ne respecte pas un certain nombre de lois de façon de faire, une façon de canaliser la violence dans la cité, par exemple, alors peuvent se produire des catastrophes qui peuvent apparaître comme quelque chose de tout à fait extérieur à ce qui se passe dans la cité, donc quelque part à une punition divine.
Et toi, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de cette question ? Est-ce que tu as...
Ça rejoint un petit peu ça, mais effectivement, le rapport au Dieu chez les Grecs, effectivement, il est assez loin de ce qu'on peut imaginer, enfin, de ce qu'on peut voir dans nos sociétés actuelles. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à bien comprendre ça. Il y a un côté
cerner, hein.
De ce qu'on a pu justement effectivement discuter ensemble. Et on y verrait presque un côté un peu animiste, si je comprends un peu les choses, parfois, pour souligner la présence des dieux hein, dans la vie quotidienne.
Oui, vous ne cessez de souligner la présence des dieux, et c'est vrai, le mot présence est un mot. C'est-à-dire, un dieu, les dieux grecs ne sont autre chose que présence.
Et, hein. Et quelque part, on peut presque y voir aussi. Quelque chose qui a été repris d'ailleurs dans les religions monothéistes plus tard, c'est peut-être aussi une sorte d'argument pour faire un petit peu peur à ceux qui voudraient s'opposer aux lois et qu'on ne pourrait pas forcément punir forcément tout de suite dans notre monde.
Vous y voyez ça, mais moi je n'y vois pas du tout ça.
Alors
on va en reparler après la pause musicale. Je vous propose une petite pause musicale. Alors vous prenez vos buzzers, vous trois et puis les auditeurs. Je vais vous présenter un quiz. On va aller en Grèce. On va écouter un morceau de Rebetiko. Le Rebetiko, c'est ce style de musique qui vient de l'Asie mineure, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et en fait, bon, la Grèce faisait partie de l'Empire ottoman, donc tout ça était très mélangé. Et puis vous allez écouter ce style qui a été repris par les Grecs qui sont partis d'Asie mineure en Grèce, et qu'on appelle donc le Rebetiko. Et puis c'est un des morceaux sans doute les plus connus, qui s'appelle Missirlou. Et vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose, donc la première personne qui trouve a gagné.
I'm
vois des yeux qui me regardent avec curiosité. J'espère que les auditeurs ont trouvé, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils connaissent le morceau. Alors, vous n'avez pas trouvé ? Vous donnez votre langue au chat ou pas ?
Ouais, ça vous fait penser à quelque chose de grec, hein, à des chants grecs modernes.
Et non, ça fait penser à quelque chose d'archipa grec.
D'archipa grec, c'est un nouveau mot.
Archipa grec. Non, ça vous dit rien ?
Non.
Bon, eh bien, Dominique, si tu peux donner la réponse. Merci Dominique, vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de pensée, une émission sur RCF, une émission de philosophie pour découvrir les textes classiques de la philosophie et les autres textes qui s'y rapportent. Voilà, alors le quiz musical vient de trouver sa solution, c'était donc la musique de Pulp Fiction. Donc on écoutait Missir Lou, une musique de Rebetiko qui est une musique très célèbre de la Grèce, non pas la Grèce antique mais la Grèce moderne, et qui a été repris de nombreuses fois, dont cette fameuse tube de Missir Lou, voilà. De Pulp Fiction, pardon. Voilà. Voilà, alors on reprend. On reprend notre discussion. On en était arrivé au dieu grec. Voilà. Alors, je voulais dire non, trois fois non, à ce que vous avez dit, Anne et toi, Sylvain. Voilà. Alors.
Donc tu ne vois pas chez les dieux grecs.
Pas du tout.
On va dire un argument de la rétribution ou de la punition des gens par rapport à leurs agir.
Je vais essayer de vous lire quelque chose. Ouais. Qui va un peu tomber comme un cheveu sur la soupe. Voilà, mais bon, c'est pas grave, je prends ça parce que je n'ai pas beaucoup d'arguments et puis il faudrait faire beaucoup de travail, d'émissions, mais le temps nous manquant, je vais vous lire un livre que je conseille donc aux auditeurs, qui s'appelle Les Dieux de la Grèce, qui est par Walter Otto, et il parle de la façon dont les nouveaux dieux grecs remplacent les anciens. Mmh. Bon. Et c'est dans un paragraphe qui s'appelle « L'essence des dieux », page 187, et il dit « La nouvelle divinité ne se tient pas face au monde comme une puissance qui le met en mouvement du dehors. Elle est au beau milieu du monde. Mais elle n'est pas quelque chose d'isolé dans ce monde. Le caractère sacré du feu en tant que génialité d'un élément déterminé pouvait bien inspirer la vénération. Il ne pouvait jamais atteindre au rang du divin en son sens plein. Même la majesté de la mer ne savait s'élever jusqu'à cette sphère. La divinité est toujours une totalité, un monde entier dans son accomplissement. Cela se confirme même pour les dieux supérieurs, Zeus, Athéna et Apollon, les porteurs des idéaux les plus élevés. Aucun d'eux ne produit une vertu unique. Aucun d'eux n'est concerné par une seule direction de la vie, aux multiples mouvements. Chacun d'eux veut donner la plénitude, la figure et la clarté de son esprit particulier au cercle entier de l'existence humaine. Mmh. Qu'en dites-vous ? Est-ce que ça répond un peu ou ça déplace le centre de gravité par rapport à ça ? Nicolas ? Non.
Ce que je comprends de ce que tu viens de lire, c'est qu'au final, les dieux sont... Enfin, le monde finalement, est un peu dieu. C'est un ensemble complet, quoi. Il n'y a pas de distinction entre le monde et Dieu. Les dieux, parce qu'ils sont plusieurs.
Qui a quelque chose à voir avec la présence de la beauté dans le monde.
Oui.
Une présence de la beauté qui irradie quelque chose. Mmh. Quand il dit « La nouvelle divinité ne se tient pas face au monde comme une puissance qui le met en mouvement du dehors », Moi, j'entends Aristote.
Est-ce que tu sais de quoi il parle quand il parle de nouvelles divinités ?
Non. C'est quelque chose où je pêche et je ne vais pas faire semblant de savoir que je sais. Je pense qu'il parle du monde des divinités lumineuses, donc Zeus, Athéna,
oui,
Apollon, en tant qu'elles remplacent les anciennes divinités.
Oui. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'au 5e siècle, donc le siècle de Sophocle, de Socrate, etc., la religion grecque a beaucoup évolué, et notamment ça fait un siècle qu'on ne pratique plus les sacrifices humains, par exemple.
Oui.
Donc il y a eu effectivement un tournant important qui a eu lieu, qui n'est pas sans rapport avec l'émergence de la philosophie, à mon avis. Et pour revenir à cette période moins lumineuse, c'est-à-dire que dans la divinité, il y a aussi la mémoire de choses traumatiques qui se sont produites. La crainte d'une société qui se disloque, par exemple. Et on en voit ici l'exemple avec Thèbes, hein, puisque Thèbes sort d'une guerre civile, hein, c'est pas rien. Et puis il y a deux frères qui se sont entretués, c'est le début des événements qui nous préoccupent dans le cadre de cette pièce. Une ville qui s'autodétruit, c'est quelque chose qui a existé. Et qui existe encore, bien sûr. Et qui génère des souvenirs traumatiques qui engendrent des lois et des craintes qui se sont traduites par les lois et des obligations qu'on impose aux membres de la cité.
Anne, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à cette... Est-ce que ça éclaire différemment ? Vous voyez, c'est pas « Oh, mes amis, vous allez avoir peur parce qu'il y a des divinités qui vont vous châtier », bien qu'il y ait ça. Mais je crois qu'il y a une autre dimension. Et toi-même, tu parlais de la beauté du texte, de tout ça.
Oui, oui, certes, mais on avait quand même l'impression, en fait, par exemple, en disant, ben là, on détourne un peu Socrate, par exemple, et même certains passages de Sophocle, on avait quand même l'impression que c'était quand même utilisé, tu vois, pour dire, vous serez récompensé si vous faites ça.
Mais justement, c'est peut-être utilisé chez Socrate.
Ouais.
C'est peut-être utilisé chez Platon,
ouais.
Une fois qu'il a épuisé tous les épuisements.
Voilà,
les,
une fois qu'il a tout épuisé.
Mais pas chez Sophocle.
Alors,
je crois que c'est différent. Je crois que chez Sophocle, on est encore dans ce rapport radieux à la beauté, à la présence, à la menace, comme tu l'as dit, à tout ça. C'est vraiment l'être humain brut, quoi. Enfin, pas brut, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais pas encore dans le logos, dans la construction rationnelle des choses.
Pour le coup, dans Antigone, il y a quand même des passages où il explique que si on va à l'encontre des dieux, ça se passe mal, quoi.
Mais bien sûr, je ne dis surtout pas ça, mais je veux le saisir dans une autre dimension. Nicolas, on peut peut-être revenir à l'éthique. Toi, il y avait un texte de Max Weber qui avait attiré ton attention. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots et qu'on souligne ce texte-là aux auditeurs ?
Oui, c'est-à-dire, effectivement, donc, on peut repartir du texte qui a été lu, hein, du texte magnifique qui a été lu, où donc, l'homme est capable de trouver les lois justes pour faire fonctionner les cités, et il est même capable d'avoir une idée de la loi divine, mais il peut mal l'interpréter et s'en servir quelque part pour des projets criminels, ou simplement qu'il devienne criminel parce que justement il se laisse aveugler. Je pense à la phrase qu'avait citée Sylvain la fois dernière, hein, en quelque sorte ça voulait dire les dieux aveuglent ceux qui veulent perdre, et c'est-à-dire les dieux font voir comme un bien des choses qui en fait conduisent à la perte.
Oui. Hein, pour celui qui veulent perdre. Oui.
C'était une autre façon d'avoir une action qui devient criminelle. Donc, si on veut en revenir au conflit d'Antigone, quelque part, on a deux personnes, Créon et Antigone, qui ont une vision très tranchée de ce qu'est le bien, de ce qu'il faut faire. Créon en tant qu'incarnant la raison d'État, et Antigone en tant qu'incarnant les lois non écrites, la loi divine. Et on a dit plusieurs fois déjà qu'il n'y avait pas de dialogue possible entre eux. Donc on peut se donner la grille de lecture proposée par Max Weber qui oppose l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. Donc à la fois Antigone et Créon sont tous les deux dans une éthique de conviction, une éthique qui n'admet aucune négociation, aucun compromis, et qui attise des réactions fortes et des conflits. Alors que l'éthique de responsabilité, pour Max Weber, c'est une éthique où, en ayant en tête donc, l'idée du bien qu'on se fait, on est capable de l'adapter aux événements et on est capable surtout de voir les conséquences de ce qu'une obstination excessive pourrait produire.
D'accord, donc ça nous fait une piste de lecture. On va essayer d'y réfléchir pour le prochain rendez-vous des neveux dans 2 semaines. Voilà. Donc, quelle lecture peut-on faire d'Antigone et quel est le lien avec l'éthique ? C'est ce dont nous avons parlé cette semaine et dont nous parlerons lors de la prochaine émission. Merci à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous dans 2 semaines avec Chemin de pensée, les neveux de René. Merci à Dominique Herpelding pour la technique.